Bonjour à tous. Donc, depuis ce matin, nous avons identifié de nombreux enjeux de la citoyenneté numérique, avec les limites et les risques que cela signifie. Alors, j'ai essayé de noter en fait, les différents points qui ont été soulevés. Donc, on a parlé d'éducation à la citoyenneté, au numérique, d'approche transdisciplinaire. On a parlé aussi de donner aux citoyens le pouvoir de se réapproprier les connaissances, d'accéder aux dispositifs de savoir, de se donner la capacité d'agir, de déployer des compétences numériques. Dans la dernière table ronde, on a parlé aussi de penser en rupture et agir en continuité, apprendre à participer, à décider, à être acteur, faire confiance. Donc beaucoup de, autant de défis et d'enjeux en fait, hein, pour notre communauté. Donc maintenant, la question de cette table ronde, en gros, hein, c'est comment faire, hein, comment faire pour arriver à relever tous ces défis. Quel dispositif d'apprentissage hein, devons-nous maintenant imaginer, construire, afin de relever ces enjeux? Donc pour répondre à ces questions, oui, je vous donne le titre hein, de la table ronde, comment relever le défi de la formation des formateurs au numérique dans un contexte de recherche en émergence? Donc pour répondre en fait à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir à cette table ronde quatre acteurs experts qui vont nous faire partager leur point de vue sur cette question de la formation des formateurs. Donc tout d'abord, Monsieur Jacques Genestier, qui est directeur de l'ESP d'Aix-Marseille, président du réseau national des ESP. Ensuite, nous avons Monsieur Georges-Louis Baron, un professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Descartes, qui est aussi membre de la commission de l'Académie des sciences et directeur de recherche, porteur d'un projet IFRAN aussi, voilà, hein, sur les aventuriers, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Nous avons aussi Françoise Mercadal de la Salle, qui est directrice des ressources et de l'innovation à la Société Générale, voilà, membre du Conseil national du numérique. Et Nicolas Turca, qui est responsable du pôle e-éducation à la Caisse des dépôts et des consignations. Voilà. Alors, je vous propose de commencer avec les différentes questions que nous avons imaginées, que nous avons proposées. Donc, la première question que j'adresserai à Monsieur Genestier, quel est le rôle majeur pour vous, hein, que jouent les ESP dans la formation des formateurs aujourd'hui, avec les différents enjeux que nous avons présentés depuis ce matin?
Alors, bonjour. Le rôle majeur, c'est toujours difficile de savoir si c'est un majeur ou une mineure. Je pense que ce qui se joue avec la mise en place des ESP, c'est cette idée d'un continuum de formation de tous les enseignants qui interviennent de la maternelle à l'université. C'est ce qui était inscrit dans la loi qui a fondé les ESP. Et cette idée de, effectivement, et ça a été largement dit aujourd'hui, ça a quelques moments qu'on regarde le développement professionnel des enseignants ou des enseignants-chercheurs, on est confronté à cette question-là de l'amont et de l'aval, et donc de fait de la question de la formation. Le second point, assez rapidement, me semble-t-il, c'est, et là c'est peut-être un point un peu d'ouverture, hein, les ESP ne sont pas très vieilles, elles ont été créées en 1er septembre 2013, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, l'idée que de penser la formation des enseignants avec quelques référents communs de la maternelle à l'université, prof d'école, professeur de collège et de lycée, professeur de l'enseignement supérieur, et notamment avec les deux questions qui ont été beaucoup débattues aujourd'hui, la question de la citoyenneté et la question de la place et du rôle ou des modifications induites par l'utilisation et l'usage du numérique et sa banalisation, entre guillemets, avec toutes les réserves qu'on a pu entendre aujourd'hui. Le troisième volet, c'est aussi ce qu'on s'aperçoit, et ce colloque me semble aussi très significatif de ça, de l'adossement à la recherche de ces formations. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une organisation qui pense la formation sur un mode conservatoire, même si on voit encore de nombreuses traces de ça, hein, à travers différents débats, mais je crois qu'il y a réellement l'idée d'essayer de penser ce processus-là dans une dynamique et dans une culture commune. On a beaucoup parlé de culture, notamment. Alors après, peut-être quelques deux points rapidement. Le premier, c'est que quand on discute de transmission de connaissances au sens très large du terme, et sans y mettre plus que un simple terme générique, quand on discute de transmission de connaissances, on discute de partage de savoir, et bien évidemment de la question du partage du pouvoir. Notre système scolaire, c'est un truisme, beaucoup de choses paraissent très innovantes en France et sont d'une banalité consternante dans des tas d'autres pays. Et donc ce qu'on a tendance à qualifier comme innovation pédagogique en France est souvent quelque chose de très ordinaire dans d'autres organisations et dans d'autres systèmes éducatifs et universitaires. Donc, je crois que là, il y a dans cette question-là vraiment un point de débat fort sur, avant de définir et de dire quel type d'enseignant on veut, c'est quel type de société, quel type d'organisation sociale on veut mettre en place, notamment sur cette question du partage du savoir. Et l'école et l'université sont les outils sociaux qui permettent de partager ça. J'ai beaucoup apprécié, et je terminerai mon introduction là-dessus, les quelques références à quelques auteurs de cette journée, notamment Simondon. Il y a une autre version chez Simondon qui est très intéressante, c'est la construction simultanée d'un processus d'individuation, comment un individu existe dans la société, et de socialisation, comment il existe dans un groupe social. Et on voit bien que un système très élitiste et très individualisé, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle beaucoup de l'élève au centre du système, de l'individu au centre du système éducatif. On en est aussi là à se poser des questions sur mais comment on remet de la société dans cette individualisation et du social, sans pour autant le retransformer en processus d'exclusion et de ségrégation qu'on connaît. Voilà, je crois que c'est les termes actuels du débat sur ces questions-là, et je pense que c'est vraiment un débat de fond. Les solutions, il n'y a pas de solution miracle, elles se construisent progressivement, et notamment il y a, je pense, un gros investissement à avoir, pas simplement individuel, là, au niveau de la nation, au niveau du pays, de qu'est-ce qu'on veut comme société de demain et qu'est-ce qu'on est capable de mettre en jeu en termes de moyens pour favoriser le développement des recherches là-dessus. Et pas simplement des recherches sur les technologies numériques, pas seulement des recherches sur l'usage des technologies numériques, mais des questions sur les pratiques sociales de ces technologies, sur le partage de ces technologies, sur la façon dont on voit le monde à partir de là, etc., etc. Donc je pense qu'on en est au début de ces questions-là. Juste un petit point de vue rapide, mais on qualifie généralement les révolutions après les révolutions, pas pendant. Donc peut-être qu'il faut attendre pour savoir si ça sera réellement une révolution qui changera les modes d'organisation sociale, ou si ça sera au contraire une évolution qui renforcera des règles sociales qu'on connaît trop bien.
Alors, effectivement, entre recherche et formation, il y a une différence aussi peut-être de temporalité, puisqu'on est sur des recherches à moyen, long terme, alors que la formation, les formations sont dispensées aujourd'hui en fonction de besoins qu'on essaie d'anticiper. Donc sur ces questions de recherche, monsieur Georges-Louis Baron, oui. Vous aviez des choses effectivement...
Volontiers. Alors, moi je suis en centre d'éducation, j'ai commencé ma carrière en centre de la recherche sur l'informatique dans l'enseignement, hein, c'est-à-dire... Et effectivement, j'ai participé il y a quelques années à une commission de l'Académie des sciences qui a réfléchi sur ce que ça voulait dire qu'enseigner l'informatique, sur la nécessité d'enseigner l'informatique. Alors, très brièvement, avant d'arriver sur dire quelques mots sur la recherche, trois remarques, parce qu'il faut préciser de quoi on parle. La première remarque, c'est sur l'ère du numérique, le titre de cette journée. Ben, il faudrait préciser, parce qu'une ère, c'est long. Est-ce que, par exemple, on pourrait parler de la citoyenneté à l'ère Gutenberg ? Non. Les choses évoluent très vite, elles évoluent bien plus vite que ne peut réagir le système éducatif qui fonctionne selon des bases de temps qui sont multiples de 10 ans. Et ça pose un très réel problème à l'institution pour s'adapter. Donc une ère, c'est long. Deuxièmement, le numérique, c'est un archipel. Si on parle du numérique, on ne sait pas de quoi on parle. Et il y a trois domaines qui sont très différents, trois composantes qui sont en tension parce qu'elles se réfèrent à des disciplines et à des champs disciplinaires différents. Il y a d'abord l'informatique. Et ça, c'est indéniable. Et on constate qu'actuellement, il y a une sorte de rabattement social de l'informatique sur le codage. C'est-à-dire, en fait, sur la programmation, qui effectivement est un des cœurs de l'informatique. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça, il y a un premier attracteur autour de l'informatique. Il y en a un deuxième autour de, on en a entendu Jean-François Cerisier tout à l'heure, autour de l'information, la communication, les médias. Là, il y a des choses qui sont aussi très importantes. Vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait pareil, hein, l'éducation aux médias, l'éducation... Alors là, le malentendu provient du fait que l'information n'a pas le même sens en informatique, où l'information est indépendante du sens, et dans le domaine des études médiatiques, où là, l'information, c'est quelque chose qui a un sens. Hein. Et puis, il y a un troisième attracteur qu'il ne faut pas oublier, qui est l'attracteur technologique, technique. Il y a longtemps que le secteur technologique enseigne l'informatique et qu'il l'enseigne, à mon avis, bien, enfin pas mal, et donc bien, disons. Et ces trois domaines sont en tension. Et quand on essaye de trouver des solutions pour enseigner le numérique, l'informatique, on tombe sur des concurrences entre des manières de voir qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a un travail de discussion là-dessus. Deuxième chose, si on parle du numérique, et je ne le ferai pas aujourd'hui, mais il faut toujours se souvenir qu'il faut mettre en perspective historique. Hein. C'est-à-dire, les premières politiques datent, en particulier l'université, qui vise pas seulement les informaticiens, datent du plan informatique pour tous de 1985. Et on crée à l'université des ateliers IPT où on enseigne la programmation, mais aussi informatique et société. J'ai été content d'entendre ce matin des gens du CRES, puisqu'ils ont fait des propositions très intéressantes autour d'informatique et société. Et puis, autour des années 2000, il y a eu le B2I, le C2I, qui sont en train de s'éteindre. Et maintenant, il y a toute une réflexion sur le numérique. Et pour arriver sur les problématiques de recherche, je crois qu'un des gros problèmes actuellement, c'est qu'effectivement, il y a un déficit. Et il y a un enjeu, donc, parce qu'il y a un déficit de conceptualisation des processus qui se déroulent derrière l'écran. Donc, et là, il y a un besoin de conceptualisation de ce qui se passe derrière l'interface. Et c'est facile à dire, c'est pas facile d'en tirer des conséquences pour l'enseignement, mais voilà, on est au cœur d'un problème très important. Et par rapport à la culture informatique, je crois qu'il serait préférable, et je reprends là une idée de Jean-Louis Martinan, il serait préférable de penser le numérique, entendu dans ses différentes acceptions, comme un domaine de culture. Peut-être ça permet ce très léger changement de sens permettrait de trouver des réponses un petit peu différentes. Donc, pour en finir là-dessus, avant d'en arriver à la recherche, je crois que ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle va dans le bon sens. C'est-à-dire, il y a des enseignements d'informatique sous différentes formes qui sont mis en place dès l'école maternelle, au collège, des enseignements qui sont dispensés au collège et au lycée par des technologues, des mathématiciens, ça va préparer une base. Un des problèmes qu'on a en université, c'est que souvent, on a des étudiants qui font des études informatiques, mais en fait, sont des débutants en informatique. Donc, c'est un problème, mais c'est comme ça, si vous voulez. Donc, ce genre de décision est susceptible d'amener des différences, d'avoir des impacts à terme à l'université. Et bien entendu, Michel m'a freiné, j'ai une idée sur ce qu'il faudrait faire à l'université, mais ce n'est pas le sujet, puisque d'autres en parleront peut-être, ou il y aura peut-être, je ne sais pas, moi, des questions, des remarques, sur les recherches. Alors, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de dire, voilà un programme de recherche que je vous propose. J'ai quelques remarques à faire avant de souligner deux points. La première remarque, c'est que l'agenda des chercheurs est fortement influencé par les décisions du politique, et en particulier, parce que c'est eux qui financent, actuellement c'est le cas, il y a un certain nombre de projets, vous avez entendu parler des projets IFRAN, vous en entendrez parler tout à l'heure, là, il dépend donc un peu du politique d'attirer l'attention sur des problématiques vives, et donc il y a des chercheurs qui iront. Deuxième remarque sur la recherche, on est devant des phénomènes qui font intervenir à la fois des personnes humaines, des systèmes d'instrumentation et des systèmes sociaux. Et donc, ça ne s'aborde pas pareil. Et donc, ça veut dire que tout ça milite pour des recherches pluridisciplinaires, des recherches interdisciplinaires, et si possible, dirais-je, en relation avec des praticiens. Et troisième remarque, enfin, les recherches servent certes à trouver des résultats, mais surtout à reproblématiser les questions. et à donner de nous des idées, à fortifier la réflexion des gens qui regardent ce que les chercheurs ont fait. Et quant aux recherches, alors, non, je n'aurais pas l'outrecuidance d'en parler, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis sensible particulièrement à deux ou trois choses. La première, c'est ce qu'on appelle la didactique de l'informatique. On a fait des recherches qui montrent que les enfants très jeunes peuvent apprendre des notions de programmation et acquérir ce qu'on appelait dans le temps une pensée logistique. Ça marche assez bien. Dès la grande section de maternelle, avec des petits robots, des choses comme ça, c'est très intéressant. Mais bien sûr, ça n'est qu'une chose. Hein. Deuxièmement, je crois qu'il y a des recherches très importantes à continuer sur les processus de conception de nouveaux environnements, de conception dans l'usage. On a peut-être pas beaucoup parlé de crowdsourcing, de recours aux gens, à la foule. Il faut que cette foule soit formée. Mais là, il y a des recherches très intéressantes à faire. On a un peu parlé de Fab Lab, de choses comme ça. Et le troisième point, à mon avis, c'est les recherches historiques. Tout ça se situe dans un flux historique et c'est très important de regarder si ce qui s'est passé, comment ça a évolué, quelles idées ont été émises. Et puis enfin, et pour en terminer là, je crois qu'il y a on a parlé tout à l'heure d'algorithmique, d'APB. Effectivement, un des problèmes que nous avons actuellement, c'est l'importance des intermédiations algorithmiques. Donc ça se voit surtout dans les processus d'affectation des enfants. Il y a des choses qui se passent beaucoup plus autour de l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce qu'il y a maintenant des systèmes qui peuvent décider en fonction des traces laissées par les apprenants de ce qu'ils vont apprendre. Et là, je crois, il y a d'ailleurs des recherches d'informatique qui sont menées sur ces questions-là, qui embarquent des questions de fouille de données, mais pas que, et ça, c'est très intéressant. Puis je vais m'arrêter là, parce que je crois que mon temps est écoulé.
Non, merci. Donc, pour cette vision du numérique, en fait, qui va au-delà de l'informatique, dans une approche transdisciplinaire, avec, comme vous disiez, en étant en lien avec les acteurs, une nécessité de rester en lien avec les acteurs, je voudrais juste qu'on revienne, en fait, sur les formations qui sont dispensées par les ESPE. Dans quelle mesure est-ce que les formations sont adossées à cette vision de la recherche que vient de nous décrire Monsieur Baron?
Je pense que c'est le point de départ de la discussion. Alors, je redis, soyons modestes, ça fait que 3 ans que les ESPE se mettent en place, elles ont essayé de régler beaucoup de problèmes. L'idée, c'est bien effectivement d'adosser les formations à la recherche. La question qu'on peut se poser, quelle recherche ?
Oui.
Donc, Georges-Louis parlait de recherche interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Juste une petite comparaison. Il n'y a qu'à voir la structuration en France de la recherche en éducation dans toutes les disciplines en comparaison de d'autres secteurs de la science, par exemple le secteur de la santé. Tu disais c'est piloté par des investissements. Si on veut réellement investir dans l'éducation, comme c'est dit dans les discours politiques, on prépare le futur à l'école, alors préparons le futur à l'école. C'est-à-dire investissons dans la recherche pour alimenter ça. Je pense que là, le second volet de la réponse, il est sur ce que j'ai... Me semble-t-il, il y a comment les universités, ou comment l'université avec un grand U, se saisit de cette opportunité qui lui est donnée d'investir réellement la formation des enseignants. Et donc, comment les chercheurs des différents laboratoires qui sont par ailleurs, pour une grande majorité d'entre eux, enseignants-chercheurs, participent à l'ESPE. Là, le résultat est un peu plus modéré. C'est-à-dire que, par exemple, à la formation des professeurs des écoles, on a beaucoup parlé de ce niveau-là, d'introduire à ce niveau-là une littératie numérique, par exemple. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'enseignants-chercheurs qui se déplacent de leur laboratoire pour venir expliquer quelques petites choses et travailler à l'adossement à la recherche. Alors, il y a des tas de choses intéressantes qui se font, notamment, mais je pense que notre collègue de la Caisse dépôt et consignation en parlera plus que ça, par exemple, l'appel à projet IFRAN est un excellent exemple de cette idée d'une recherche impliquée, c'est-à-dire qui associe des laboratoires universitaires, donc la recherche, des ESPE, donc la formation, et le terrain, des établissements scolaires ou des communautés éducatives définies. Et je crois que c'est cette construction-là qu'il faut partager ensemble. Donc ça suppose effectivement de nombreux décloisonnements par rapport à ça. Ça suppose un investissement, certes financier, ça c'est pas négligeable, mais aussi humain. C'est-à-dire que plutôt que de constater chacun dans notre formation, moi je viens d'une autre formation aussi, que je connais bien par ailleurs, plutôt que de nous lamenter dans notre propre formation sur les déficits du système scolaire, ben venons participer à construire ce système scolaire. Notamment parce que les rapports au savoir ont profondément évolué. On a beaucoup parlé d'inculture ou de choses comme ça. On a peu parlé, par exemple, de pratiques qui se développent de plus en plus où des élèves disent à leur prof « ce que vous venez de nous raconter, ce n'est pas vrai. Je viens de regarder sur Internet et ce que vous nous dites, ce n'est pas vrai. » Il y a réellement des changements d'usage aussi dans l'éducation et je pense que c'est un enjeu fondamental. L'idée, c'est pas, et Georges Louis le disait très bien, l'idée, c'est pas de former des enseignants à des techniques particulières. Normalement, ça devrait être acquis quand ils arrivent en master. Alors, bien sûr, on peut mettre en place des systèmes de rattrapage pour ceux qui n'ont pas. Par contre, qu'on les forme à des questions d'usage des technologies numériques, ça me semble être très important. C'est un volet. Dans les pratiques pédagogiques, l'autre volet qui me semble aussi très important, c'est qu'on les forme à la nature de l'usage. Pourquoi on se sert de ces technologies numériques? Quelles en sont les limites? Quelles en sont les portées? Donc avoir développé, ça a été dit plusieurs fois dans la journée, j'abonde tout à fait dans ce sens-là, comment on les forme à développer un esprit critique? Comment on les forme à des pratiques qui permettent à leurs élèves de développer un esprit critique? Et pas simplement dans des organisations expérimentales qui concernent quelques élèves qui viennent là volontairement. Non. Question de l'éducation, je reviens à ce que je disais au départ, s'il y a réellement un enjeu de partage du savoir, alors comment on s'adresse à tous les enfants? Une classe d'âge en France, c'est à peu près 850 000 enfants. Une expérience qui marche dans une classe avec 15 gamins, c'est une expérience qui marche avec 15 gamins.
Bon, merci, oui, effectivement, sur cette co-construction des compétences avec les différentes parties prenantes du système. Alors, sur le dispositif d'investissement d'avenir IFRAN, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, pour nous expliquer un peu les soutiens à la recherche en sciences de l'éducation et dans ces domaines?
Oui, alors, justement, IFRAN, l'idée initiale qui était sortie de la mission de Jean-Marc Monteil, hein, du recteur, elle était que la recherche irrigue justement la formation des enseignants. C'était un des postulats de base qui avait été posé par la mission et dans la conception du programme IFRAN. IFRAN, c'est juste pour rappeler quelques chiffres, et l'idée d'ailleurs in fine, et Jean-Marc Monteil le dit bien mieux que moi, c'est constituer une force de frappe, certes minime dans un premier temps, puisqu'on parle d'une trentaine de doctorants d'ici 3 ans, pour justement permettre ce lien entre la recherche et la formation initiale des enseignants. IFRAN, c'est 105 projets qui ont été soumis, c'est 22 aujourd'hui qui sont labellisés, sélectionnés par un comité de sélection indépendant, présidé par Pierre Tambourin de Génopole. C'est une enveloppe globale financée par le PIA d'une vingtaine de millions d'euros, près d'une quarantaine en réalité avec les cofinancements. C'est aussi 300 terrains d'expérimentation, ce qu'on se disait, dans la vie réelle. Et c'est un des sujets, notamment des sciences éducatives, c'est trouver des terrains d'expérimentation suffisamment larges, dans la durée, enfin c'était un des sujets, ouvrir finalement les académies pour pouvoir accéder à des écoles, à des collèges. C'est 158 écoles primaires, c'est à peu près une centaine de collèges et c'est presque une cinquantaine de lycées. Donc c'est aujourd'hui relativement conséquent. C'est 58 unités de recherche qui sont mobilisées au total. Donc ça a une force, ça a un véritable objet, enfin son véritable objet est de véritablement mettre, et c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure monsieur, c'est mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs autour d'un projet, de quelque chose de commun. Je rajouterai une communauté, la communauté de la société civile et de la communauté économique, puisqu'il y a près d'une vingtaine également de, d'entreprises slash start-up qui participent au projet. Juste pour exemplarifier peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de se dire depuis la matinée, IFRAN, c'est aussi des sujets structurants pour l'école en général. Par exemple, c'est un sujet porté par, par l'ESP de Bordeaux qui s'appelle Persévérons. C'est comment est-ce que le numérique peut être un levier de motivation. En tout cas, c'est chercher les liens entre la motivation et le décrochage scolaire. Est-ce qu'on peut, en tout cas, éviter le décrochage scolaire en motivant à travers, avec des objets numériques, notamment des robots, mais également des tablettes. C'est créer un réseau de recherche dans ce bassin aquitain pour pouvoir justement regarder et mesurer les effets réels finalement de la motivation sur ce type de sujet. Et ça c'est un sujet qui est réel aujourd'hui puisque la Doxa veut que finalement le numérique ça attire les enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a véritablement un effet ou pas ? Y a un autre projet qui s'appelle Parcours Connecté à l'université de Créteil, qui est porté par, enfin à l'université, à l'académie de Créteil, excusez-moi, qui est porté par l'UPEC. C'est finalement dans le cadre des Master MEF, hein, porté par les par l'ESP de Créteil, un système d'accompagnement des futurs enseignants, et ce en deux temps. C'est un premier temps où on va leur livrer, en tout cas on va travailler avec eux un certain nombre de compétences transversales et de l'ordre de la coopération, se bâtir un esprit critique et comment j'enseigne ça, mais également quelle créativité, quel niveau de créativité je donne à mes élèves. Et en fait après il y a un deuxième temps sur deux années avec un suivi des enseignants, une espèce de mentoring finalement derrière, le tout étalé sur trois ans, avec des méthodologies issues de la recherche qui sont diffusées finalement à des enseignants de la vie réelle. Et puis enfin, il y a, je trouve par rapport à notre thème aujourd'hui, il y a Arène, qui est un projet qui est donc porté par l'Université de Montpellier, qui fait le lien entre l'argumentaire et le numérique. C'est le sujet très concret, c'est mettre au point une plateforme numérique dédiée au débat écrit en ligne par les élèves. Ce qui est un sujet majeur quand on est citoyen numérique et lorsqu'on s'est dit ce matin qu'il y avait un certain nombre de tweets clash ou de choses comme ça qui peuvent se passer sur des réseaux sociaux. En tout cas, c'est développer le sens de l'argumentation, de la pensée critique. Et ça, c'est mesurer les impacts, les objets sur une plateforme qui sera développée et les méthodologies. Et juste, j'ai trois sujets qui ne sont pas traités actuellement par IFRAN, mais qui devront l'être probablement. Le premier sujet, c'est qu'il va falloir sortir de ces terrains d'expérimentation et aller diffuser au-delà, dans les autres académies, dans les autres territoires. Pour l'instant, c'est des territoires d'expérimentation. Il faut très très vite se poser la question de comment on diffuse et comment est-ce qu'on va vers les autres ESP. Alors il y en a 18 hein, dans IFRAN qui sont impliqués sur 22, mais en tout cas il y a 18 projets qui embarquent les ESP sur 22 projets IFRAN, donc c'est déjà conséquent, mais c'est se poser la question comment est-ce qu'on généralise finalement ces méthodologies issues de la recherche, parce qu'au-delà du fond, de la valorisation des livrables finalement, c'est comment est-ce que je sors justement les méthodes de recherche. Il y a également le sujet, je trouve, on a beaucoup parlé de la formation initiale finalement des enseignants, il y a le sujet de la formation continue. Est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 15 ans, parce que c'est la carrière d'un prof, il y aura toujours la même façon, il y aura peut-être des nouvelles technos, des nouvelles pratiques, des nouveaux usages. Il y a le sujet de cette formation continue qui sera appréhendée à un moment ou à un autre par l'éducation nationale, ça me paraît évident, et d'autant plus dans le milieu de l'éduc où en effet il n'y a pas les motivations de la recherche qui sont propres peut-être un peu plus en tout cas à l'université. Et enfin il y a un sujet parfois un peu douloureux, mais il va falloir le dire. Il y a le sujet de l'acculturation des corps encadrants de l'éducation nationale, que sont les IEN, les IPR, enfin les inspecteurs, qui aujourd'hui font le travail de fond, finalement, sur le terrain, auprès des enseignants, en tout cas, qui sont souvent en contact avec ces gens-là, et qui apportent un regard quasi-évaluatif sur leur travail. Plus que quasi.
Oui, Oui, donc effectivement, comment arriver à propager en fait cette expérimentation, à diffuser en fait dans la société plus largement.
Alors, dans le cadre du PAI, on a eu l'accord du commissaire général à l'investissement pour sanctuariser une partie des fonds dans ce qu'on appelle une poche de diffusion et valorisation des résultats d'IFRAN. Mmh. Moi, au titre de l'appui métier que la Caisse fournit sur le PIA, on a beaucoup milité, entre guillemets, pour que cette diffusion et cette valorisation dépasse justement le livrable, le rapport de recherche qui est classique à la recherche. On essaye aujourd'hui à travers deux axes, un principal axe autour de la construction d'une espèce de portail, plateforme pour justement informer, faire cette communauté finalement de recherche. Il y a des labos de sciences cognitives, il y a des labos de sciences de l'éducation, de psycho, de sociaux, donc que ces gens commencent à discuter autour d'un certain nombre de projets, et le tout trouvant un point d'orgue dans le deuxième axe, et ça Jean-Marc Monteil y tient assez fortement, sur l'organisation de doctorial propre, voilà, alors c'est peut-être pas une idée... mais ça serait une idée nouvelle, en tout cas en France, pour le coup ça se fait ailleurs, mais c'est, ça serait déjà la première animation, entre guillemets, en propre de ce réseau-là. Voilà.
D'accord, donc effectivement, là en fait sur les sujets que vous avez cités, on voit que le numérique impacte donc, la capacité à apprendre, en fait dans cette problématique de transmission des compétences et des connaissances, donc numérique capacité, numérique qui agit aussi sur la motivation, des apprenants à se saisir en fait des sujets, et puis sur l'opportunité peut-être du contexte aussi d'apprentissage qui est favorisé en fait par l'outil numérique, par la technologie là effectivement qui peut être proposée dans ce contexte d'apprentissage. Alors pour compléter le propos, Madame Mercadal de la Salle, quelles sont les attentes des entreprises pour l'innovation? Quelles sont vos attentes dans votre mission, dans les projets que vous portez, pour répondre aux défis qui sont les vôtres?
Le mouton à 25 pattes.
Ouais.
Peut-être pour reprendre un peu de recul et puis essayer de vous apporter l'expérience qui a été la nôtre, puisque finalement, quand on est dans une très très vieille entreprise comme la mienne, on a des problématiques de transformation et d'acculturation au numérique qui finalement ressemblent à celles de toutes les grandes organisations, et l'université est encore infiniment plus vieille que la société générale, et je pense qu'on peut partager un certain nombre de choses. D'abord, et peut-être pour prolonger ce qui a été dit tout à l'heure, le numérique c'est pas que l'informatique, mais ça commence... beaucoup par l'informatique et la technologie, et puis c'est quelque chose qui se produit derrière. Alors, nous avons d'abord eu besoin de comprendre, c'est-à-dire est-ce que ces nouveaux outils qui nous arrivent vont changer quelque chose de véritablement fondamental, d'une part dans la relation que nous avons à nos clients, nous avons des clients, et puis aussi dans la façon dont on travaille ensemble, finalement. Et il a fallu qu'on aille chercher très très loin en dehors de nous-mêmes pour essayer de trouver une réponse à cette question. Et moi, c'est un très 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 vieux monsieur qui m'a éclairé et qui nous a tous éclairé, c'est Michel Serres. Et je pense qu'il faut absolument revenir sans cesse à la parole et aux écrits de Michel Serres pour comprendre ce qui est à l'œuvre. Alors, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est une transition? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, quand Michel Serres raconte qu'on est en train de vivre la troisième transition anthropologique de l'humanité, et que c'est cette nouvelle technologie qui met toute la science du monde dans la paume de la main, qui est en train de profondément changer tout ce que nous faisons ensemble, et en particulier de profondément changer le rapport à l'autorité. Et c'est peut-être le point qui nous intéresse ici. L'autorité en tant que les parents, nous les pauvres parents face à nos enfants, évidemment, les médecins face à leurs patients, les profs face à leurs élèves, mon Dieu, moi j'ai 4 enfants qui sont maintenant des ados, donc je vis ça en permanence, ce que vous disiez tout à l'heure, je crois, je suis en cours, et puis Et puis un gamin m'interpelle parce qu'il a vu sur internet que ce que je disais c'était n'importe quoi. Enfin en tout cas c'était pas ce qu'il avait lu. Voilà. Et puis évidemment le rapport de l'ensemble des clients à leur fournisseur de services quel qu'il soit. C'est tout ça qui est en train de profondément changer. Et nous, ce que nous avons compris progressivement en écoutant Michel Serre et puis beaucoup d'autres que nous avons voulu rencontrer, c'est que cette diffusion massive des nouvelles technologies changeait profondément nos rapports sociaux, la société de manière générale. Et que si nous, vieilles institutions, nous ne nous remettions pas profondément en question, eh bien, nous serions, terme consacré, disruptés par des nouvelles organisations qui, elles, l'ont infiniment mieux compris et qui sont nées avec ces nouvelles technologies. Donc je crois qu'on peut faire véritablement des passerelles et des rapprochements évidents entre ce que nous avons vécu, nous, et ce qu'a vécu ou ce que sont en train de vivre aujourd'hui toutes les autorités qui, d'une manière ou d'une autre, transmettent le savoir. Alors dans ce contexte-là, comment on fait? Et puis je vais évidemment atterrir sur votre question après ces longues digressions. Je pense d'abord que, encore une fois, je vais vous donner l'exemple de ce que nous avons fait dans notre organisation, et puis vous y trouverez les parallèles, parce que je ne vais évidemment pas me mêler de vous dire comment il faut former les formateurs dans vos institutions, j'en serais bien incapable. Mais donc après cette phase de compréhension qui me paraît extrêmement importante, alors les Américains appellent ça derrière evangelize. Dans les grosses boîtes américaines, il y a des évangélisateurs qui sont chargés d'aller raconter. Ce sont des faiseurs d'histoire, ce sont des raconteurs d'histoire. Ils racontent autour d'eux, et moi j'ai fait ça depuis 5 ans. Je raconte ce que ça veut dire et sont comprendre cette affaire-là. Et je pense que c'est très très important. Une fois qu'on a fait ça. C'est ultra nécessaire, encore une fois, la transition numérique, c'est l'utilisation massive des nouvelles technologies qui changent, etc. Si vous ne mettez pas à disposition de vos collaborateurs, si vous ne mettez pas à disposition de vos formateurs, de vos enseignants, puis de vos élèves, l'outil numérique, il n'y a aucune chance, aucune, qui bascule dans cette nouvelle ère. Donc il y a quand même un sujet majeur de diffusion massive de l'outil, et quand je dis l'outil, c'est bien évidemment le device, et puis maintenant c'est plus avec un petit Nokia d'il y a 10 ans qu'on peut être digital, hein. Il faut des choses bien plus lourdes que ça. Il faut des réseaux, il faut que je mette ma main plus haut, merci, ça va mieux comme ça, il faut des réseaux, et ça c'est fondamental, et je crois que c'est Emmanuel qui disait tout à l'heure, mais nous en Vendée on n'a pas forcément partout la 4G, le machin, etc. Dans les entreprises, dans la banque, il y a encore 4 ans, dans les agences, nos collaborateurs avaient devant les yeux un gros ordinateur fixe avec une interface absolument désespérante, c'est-à-dire ultra complexe, faite par des informaticiens pour des informaticiens, etc. etc. Puis surtout, ils n'avaient pas accès à Internet. Parce que quand on allait sur Internet, ça voulait dire qu'on perdait notre temps. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de fondamental de comprendre qu'avec l'outil, il faut donner le réseau et il faut permettre, donner la liberté, la capacité d'aller vivre de manière digitale, c'est-à-dire d'aller sur les réseaux sociaux, d'être un acteur numérique dans Twitter, dans l'ensemble des réseaux, d'aller chercher la connaissance, etc. etc. Une fois qu'on a donné, distribué, permis l'accès à l'ensemble de ces outils, et on l'a entendu tout à l'heure aussi, et c'est fondamental, et je crois que nous avons le même problème, c'est le sujet de la donnée, évidemment. Le partage de la donnée, c'est-à-dire que l'ère digitale... Décidément, j'ai du mal avec mon micro. Ça va mieux, là ? Ouais, c'est bon, là. Non ? En haut, je le tiens, comme ça ? Voilà. Prenez l'autre, ça marche. Donc la donnée et l'accès à la donnée. Et alors ça, c'est un enjeu de pouvoir dans les organisations. C'est un, j'imagine, dans l'université, le même sujet. La détention de la donnée. Alors dans la banque, c'est j'ai mes clients, je les connais, et toi tu vas pas me les piquer, et puis tu vas pas aller commencer à regarder, toi qui fais de la banque pour le... Alors, ce qu'on appelle le consumer finance, tu ne vas pas aller commencer à faire du prêt personnel, etc., etc. Enfin bon, bref. Et donc ça, la volonté au plus haut niveau de l'organisation de constituer ce qu'on appelle aujourd'hui des lacs de données et de donner des accès à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils se mettent à inventer les apps, les applis, les interfaces nécessaires à partir de ces lacs-là, c'est absolument fondamental. Et puis j'en termine par là, et vous verrez que j'atterris, je vous le promets, sur votre question, c'est ce que j'appelle le retournement de la pyramide. Et ça, c'est le fait culturel le absolument majeur et le plus important, parce que à la fin de cette histoire, quand vous avez raconté ce qui se passe, quand vous avez donné les outils, quand vous avez partagé les données, si vous continuez, vous, le grand chef, à vous comporter comme vous l'avez toujours fait, c'est-à-dire je suis à la tête du bidule, c'est moi qui sais, je vais dire ce qu'il faut faire et les autres vont le faire, ben là, on n'a strictement rien compris. Et je pense que l'enjeu majeur est là, c'est-à-dire que c'est pour des gens comme moi, qui ont été formés dans les bonnes universités et les grandes écoles de ce pays, cette idée de « tu ne peux pas savoir, c'est pas toi qui vas inventer, c'est pas toi qui vas savoir faire, ton seul rôle, c'est de mettre à disposition l'ensemble de ces trucs-là pour que tes collaborateurs qui sont au contact du client, qui sont au contact de l'ensemble de nos interlocuteurs, pour vous sûrement, qui sont au contact de l'élève ou du professeur qui doit apporter le savoir, c'est eux qui sauront faire. Et ça, je pense que cette dernière marche là de l'apprentissage, c'est forcément la plus difficile à faire. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. C'est très difficile. Vous avez entendu parler des entreprises libérées, ce buzzword de Isaac Getz, etc. Vous avez eu un excellent article dans la revue de Paritech récemment sur l'innovation, ce concept de retournement de la pyramide hiérarchique qui se pratique beaucoup en Inde notamment. Ça, je dirais que finalement, le cœur du cœur, c'est ça. Et si à ce moment-là, on ne lâche pas prise, et si on ne se dit pas, je suis en train d'entrer, moi, qui ai appris tout autre chose à l'école, que mon rôle est complètement différent et qu'il faut que j'entre dans une relation infiniment plus horizontale, extraordinairement transparente, et avant toute chose dans une relation de confiance avec les gens qui m'entourent, je ne laisserai pas advenir cette nouvelle ère, en tout cas pour le meilleur qu'elle pourrait nous apporter.
Effectivement, l'idée, c'est de sortir d'un mode transmissif vertical pour revenir sur une co-construction, comme on disait, horizontale.
Et donc, pour terminer, qui est-ce qu'on attend dans nos entreprises? Bah, c'est bien le mouton à 25 pattes, c'est-à-dire c'est le type qui a compris la technologie. Alors même si ce n'est pas lui-même un informaticien, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de gens qui sachent coder. Mais en revanche, de gens qui comprennent ce qui se passe derrière l'écran, au moins grossièrement. Moi, je dirige 10 000 informaticiens, je n'ai pas pris l'informatique à l'école, mais je prétends comprendre ce qu'ils me racontent. En tout cas, quand je ne comprends pas, je les force à m'expliquer. Et c'est fondamental. On a besoin de gens qui soient éveillés et ouverts aux changements sociétaux qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire aussi des gens qui ont une culture, je dirais, une culture littéraire, une culture sociologique, une culture historique, pour comprendre ce qui se passe. Puis on a besoin de gens qui ont des savoir-être. Et ces nouveaux savoir-être de coopération, de co-construction, de partage, de ce qui fait ma gloire et mon ascension dans l'organisation. C'est pas que je possède, que je détiens et que je rends secret mon savoir, mais c'est tout l'inverse. C'est toute la réflexion aujourd'hui autour de l'open source. L'open source est probablement ce nouvel étage de la révolution ou de la transition. Et donc c'est ces trois-là. Les compétences dures en matière scientifique ou pseudo-scientifique, des compétences plus soft en matière sociologique, anthropologique, et puis des savoir-être. C'est beaucoup de choses.
On revient sur la sérendipité, en fait, hein, être en capacité de s'émerveiller, d'être curieux, et puis effectivement de guetter ce qui se passe autour pour pouvoir s'en saisir et puis être capable d'agir. Donc merci pour tous ces éléments. Monsieur Baron, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces propos?
Ouais, je suis pour, mais c'est un vaste sujet hein, de faire bouger un système. Ça prend un type de 10 ans. Et c'est pour ça que je pense effectivement qu'il mentionnait les cadres intermédiaires, les inspecteurs. Il y a là quelque chose de tout à fait central. D'ailleurs, je constate que la situation n'est pas la même tout à fait dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement primaire. Dans l'enseignement primaire, il y a un certain nombre d'IEN qui joue des rôles extrêmement, extrêmement dynamiques. Alors, dans l'enseignement secondaire aussi. Et alors, si on transpose maintenant à l'université, puisque, après tout, on est ici dans un colloque de la CPU, moi, je me demande comment je pense qu'il y aurait de toute manière quelque chose qui serait fructueux à terme, qui serait, et je crois d'ailleurs que les universités s'en préoccupent, c'est de lancer des dynamiques autour du numérique en général dans les universités. Alors peut-être effectivement ce qui se fait le plus actuellement, c'est autour de quelques buzzwords comme la classe inversée ou le BIOD ou des choses comme ça, c'est très bien, mais encore une fois je suis d'accord avec vous, quand on regarde, l'histoire nous enseigne que un des problèmes qu'on a, c'est justement de passer à l'échelle. C'est un problème très difficile. Ça rejoint ce que je disais sur les interventions de proximité. Je crois qu'il y a beaucoup qui doit se faire à proximité. Voilà.
Nicolas Turca, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je vais juste rajouter un mot par rapport à... Il y a un fort prisme dans l'éducation, en tout cas actuellement avec le plan numérique, probablement sur les technos. Et derrière, ça tire une philosophie qui n'est pas forcément, ou une approche en tout cas du sujet, qui est directement sur le sujet. Exemple, le sujet du parcours personnalisé, le parcours d'apprentissage personnalisé, fascine en général beaucoup de monde. Il y avait par exemple beaucoup de projets IFRAD qui étaient soumis et qui traitaient directement du sujet. Moi, par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'insiste, mais je pense qu'il y a une couche, entre guillemets, d'acculturation, de compréhension de son environnement, son milieu dans lequel on évolue. Qu'est-ce qu'un algorithme ? Quels sont ses ressorts ? Toutes ces problématiques-là, même jusqu'au comment fonctionne finalement le marketing, qu'est-ce que Google, des choses comme ça, tout bête, entre guillemets, qui souvent est fait dans les plans de transformation des entreprises, aujourd'hui est embarqué en phase zéro quasiment, c'est-à-dire que c'est un peu la remise à niveau d'un certain nombre de catégories de personnel qu'on remet à niveau à travers ces phases d'acculturation, souvent dans des modes très ludiques, à travers des SPOC très, très courts avec des exercisers, enfin très sharp en tout cas, très, très centré sur l'objectif. Ça, je pense que c'est un vrai sujet à l'éducation nationale. Les trois jours de formation sur le plan numérique, c'est très bien, c'est un premier mouvement. Mais je pense qu'il faut également les acculturer de manière plus globale. Et là, je rejoins le sujet de la formation continue, sur lequel j'insiste, mais de manière itérative, régulièrement, pendant leur carrière. Voilà.
Oui, c'est un accompagnement, en fait, des individus, citoyens, tout au long de leur... de leur carrière, de leur vie professionnelle, de leur vie tout court en tant que citoyen.
Oui, mais un des paradoxes de la situation, comme ça évolue aussi vite, jusqu'à présent, beaucoup de gens ont eu en fait des formations continuées qui étaient des formations initiales différées. Alors, il y a un enjeu, effectivement, à relancer des choses au niveau des formations initiales. Et je crois qu'il y aurait des points à réfléchir autour de ce qui va se passer quand le C2I va être remodifié. Je crois que là, il y a très certainement des choses à construire dès le premier cycle pour permettre aux étudiants de s'approprier. Alors, non pas le numérique, non pas l'outil numérique. Il y a des tas d'outils numériques, mais peut-être une culture du numérique à condition qu'on tombe d'accord sur ce que ça signifie vraiment.
Voilà, bon, bah, merci beaucoup pour ces interventions. Je crois que l'heure est arrivée.